Et dans les matins de France Culture, donc Olivier Passeret, vous le disiez, c'est le professeur Luc Passera qui sera à notre micro. Il viendra nous raconter la vie d'un des très nombreux peuples de l'herbe, un ou plutôt des peuples d'une incroyable complexité. La véritable histoire des fourmis, c'est le titre de ce livre passionnant qu'il publie chez Fayard, une histoire vieille de plus de 100 millions d'années et qui est aussi celle, écrit Luc Passera, d'un succès écologique. Il nous dira pourquoi. Pour la géographie, elle s'étend du cercle polaire aux zones équatoriales et on part donc tout à l'heure à la rencontre des fourmis champouineuses, des fourmis kamikazes, elles sont moins sympathiques, et d'autres bergères, en compagnie de Luc Passera. Il sera au micro de France Culture, 7h20. Bon instant, en tout cas Thierry Garcin, on échangera le télescope pour le microscope avec notre invité, le professeur Luc Passera. Luc Passera qui viendra nous raconter la véritable histoire des fourmis, c'est le titre du livre passionnant qu'il publie chez Fayard dans cette belle collection Le Temps des Sciences. Vous découvrirez qu'il y a des fourmis un peu du genre de ces individus sur lesquels dont vous nous parlez, Thierry Garcin. Je me réveille régulièrement dans votre géopolitique. Il y a des fourmis esclavagistes, il y a des fourmis kamikazes, d'autres qui ont une vie sociale extraordinairement
complexe. Donc elles aiment le conflit comme les hommes.
Voilà, mais elles aiment aussi la sociabilité. C'est ce
comme les hommes aussi.
Luc Passera, comme les hommes. France Culture, il est 7h30. France Culture, il est 8h20 et on va partir ce matin à la rencontre d'un peuple très largement méconnu. Un peuple à l'organisation sociale complexe. Une société matriarcale, hiérarchisée en castes, division du travail très stricte. Certains individus sont voués à la reproduction. D'autres sont programmés pour élever les plus jeunes, pour assurer leur alimentation, voire leur protection. Cette société connaît l'agriculture, mais aussi l'esclavage et la guerre. C'est l'une des plus anciennes sur notre planète. Et son territoire s'étend du cercle polaire aux zones équatoriales. Population estimée, la fourchette est large, entre 1 et 10 millions de milliards d'individus. Professeur Luc Passera, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio. Cette société, c'est celle des fourmis, et vous n'êtes pas ethnologue, mais spécialiste de biologie animale, d'entomologie et d'écologie comportementale. Vous enseignez à l'Université Paul Sabatier de Toulouse et vous publiez La véritable histoire des fourmis, un livre qui paraît chez Fayard. Je dois dire que votre livre nous a rendus comme des gamins dans l'équipe des matins. D'où vous est venue cette passion très communicative pour les fourmis?
Oh, c'est venu de ma jeunesse. J'ai passé quelques étés, juste après la guerre, à me refaire une santé un petit peu sur les côtes de Quercy, où je gardais des moutons. Et en soulevant des cailloux par désœuvrement, je suis tombé sur des sociétés de fourmis, et j'ai été intrigué, et je pense que le virus est sans doute parti du jour où j'ai retourné cette pierre qui abriter une société de fourmis. Car, en effet, les fourmis vivent en société. Elles ne sont pas les seules sur la Terre à vivre en société. Il y a des sociétés d'insectes, dont les fourmis, les guêpes, les abeilles, les termites. On trouve également, bien sûr, des sociétés chez les vertébrés. Il y a des oiseaux qui vivent en société, les primates, et je ne parle pas de l'homme. Mais les sociétés de fourmis ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont matriarcales. Matriarcales, ça veut dire qu'on trouve principalement et presque exclusivement des femelles dans les sociétés, les mâles ayant un rôle limité à celui qui est le leur, c'est-à-dire la reproduction. Donc ces femelles que l'on trouve dans les nids vont se partager en deux castes. Il y a des femelles reproductrices qui sont les reines et il y a d'autres femelles qui ne se reproduisent pas, qui sont les ouvrières.
Et dont vous allez nous raconter l'histoire. N'allez pas trop vite, professeur Luc Passera. Mais pour rentrer dans ce monde des fourmis, d'ailleurs, petite leçon de choses, mais aussi une petite leçon de mots, comment on appelle votre spécialité?
Alors, c'est la myrmécologie.
La myrmécologie.
Myrmécologie, qui vient donc du grec, évidemment, myrmécos, qui signifie fourmi.
Alors, vous allez me reprendre si je fais de l'anthropomorphisme ce matin. C'est évidemment le risque qui guette tous ceux qui travaillent sur les animaux et particulièrement sur les sociétés animales. Mais vous parliez de vie sociale, vous parliez de société matriarcale, vous parliez de caste. Est-ce que ces mots sont justifiés? Est-ce qu'on fonctionne par analogie lorsqu'on essaye de décrire ce monde complexe?
Alors évidemment, bon, c'est la grosse difficulté, c'est de pouvoir parler des fourmis en évitant de faire de l'anthropomorphisme. On n'y parvient pas toujours, surtout lorsqu'on veut rédiger un livre pour le grand public. Mais il est vrai que il faut bien adopter des mots qui sont consacrés déjà par l'usage. L'homo reine, par exemple, que l'on emploie oui. pour la femelle reproductrice, est un mot qui a été introduit au XVIIe siècle par un Anglais, à une époque où la monarchie était l'organisation la plus traditionnelle, évidemment, la seule d'ailleurs, et on imaginait mal qu'il puisse y avoir une autre organisation. Donc,
aujourd'hui, on évoquerait peut-être une présidente si jamais voilà, on avait à découvrir voilà, les fourmis.
Voilà. Et donc, ce mot reine est très mal choisi parce qu'en fait, la reine, elle pond, certes, mais elle ne donne pas des ordres, elle ne règne pas, et elle est même très souvent manipulée par ses propres ouvrières.
Luc Passera, la réalité, à vous lire, elle dépasse très largement la fiction. Il y a eu un très grand nombre de romans à succès autour des fourmis, de leur organisation sociale, de leur vie. Au fond, il suffit de les observer et de les décrire. C'est pas un mince travail, mais en l'occurrence, ça suffit. C'est si fascinant. Comment oui. expliquer d'ailleurs cette fascination qu'on peut avoir pour un insecte qui est aussi dans l'imaginaire collectif le plus insignifiant?
Bien, parce que chaque fois que l'on travaille sur une fourmi, on trouve effectivement un comportement nouveau et un comportement qui souvent peut apparaître extraordinaire. Vous avez dit en introduction que les fourmis pratiquaient l'agriculture. C'est exact. Les fourmis ont inventé l'agriculture il y a à peu près 50 millions d'années. Nous, humains, nous avons inventé l'agriculture il y a 10 000 ans. Vous dire l'avantage que peuvent avoir les fourmis sur nous. Alors, si vous voulez, je peux vous développer un petit peu cette invention de l'agriculture par les fourmis.
Racontez-nous ça.
Alors, les fourmis, ce sont les fourmis qui pratiquent l'agriculture sont des fourmis champignonistes. Ces fourmis, comme d'ailleurs la plupart des êtres vivants, sont incapables, lorsqu'ils consomment des végétaux, de découper les molécules complexes de cellulose qui composent les végétaux. Pour cela, il faut soit posséder des enzymes qui démolissent donc cette cellulose, ce sont des cellulases, soit faire alliance avec des micro-organismes que l'on abrite dans notre système digestif. C'est notre cas à nous, nous avons des micro-organismes, des milliards de micro-organismes dans notre tube digestif pour digérer les molécules de cellulose. Les fourmis, ces fourmis champignonistes n'en ont pas, alors que les champignons, eux, savent parfaitement digérer la cellulose. Il fallait donc faire une alliance, hein, ce qu'on appelle du mutualisme, à bénéfice réciproque entre fourmis et champignons. Pour cela, il faut d'abord constituer un jardin, un véritable terreau. Les fourmis vont faire d'immenses colonnes qui peuvent faire 100, 150 mètres de long, aller découper des feuilles d'arbres, les ramener au nid, les couper en tout petits fragments, et là on aura intervention d'une division du travail, parce que ce sont des fourmis de taille moyenne qui vont récolter, ce sont des fourmis un petit peu plus petites qui vont redécouper les feuilles,
chacune a une tâche particulière,
et pour finir, nous avons des jardinières à l'intérieur du nid, qui finissent donc de découper et qui vont ensemencer ce terreau, ce jardin, avec du mycélium de champignons et qui vont donc faire pousser ce champignon. Et elles récolteront, en bonne jardinière qu'elles sont, elles récolteront les fruits, c'est-à-dire des productions que le champignon fabrique spécialement pour les fourmis. Lorsque le champignon vit à l'état libre, parce qu'il peut vivre, certains de ces champignons peuvent se trouver à l'état libre, il forme un chapeau, comme tout champignon basidiomycète qui se respecte,
oui.
un chapeau qui porte des spores. Et bien, dans le nid, il n'y a plus de spores, il y a fabrication d'un élément spécial pour alimenter les fourmis.
Et d'où le terme spécifique d'agriculture. Alors on découvre qu'il y a les jardinières, on découvre qu'il y a aussi les pharmaciennes, que d'autres font des tâches d'éboueurs. Chaque individu a son rôle très simple. Et pourtant, l'organisation sociale, elle fonctionne d'un point de vue collectif comme quelque chose de très complexe.
Oui, c'est très complexe, c'est-à-dire que l'addition d'actions individuelles est finalement le résultat est supérieur à ce que pourrait effectuer une machine complète, si vous voulez.
C'est un manifeste pour l'intelligence collective,
tout
ce que vous nous décrivez.
Tout à fait. Mais pour en revenir peut-être à ce que vous disiez sur les fourmis champignonistes, effectivement, la vie à l'intérieur du nid est une ricaneme qui permet la prolifération de bactéries, de champignons parasites, etc. Les fourmis ont su résoudre ce problème et elles fabriquent elles-mêmes leurs antibiotiques. Elles ont donc des antifongiques pour supprimer les champignons parasites, des antibiotiques dans des, qu'elles élaborent dans des glandes spéciales portées par le thorax, et elles ont même sur le corps, elles ont fait alliance avec une bactérie filamenteuse qui détruit spécifiquement un champignon parasite de leur champignon symbiote.
Est-ce qu'on comprend mieux les comportements humains lorsqu'on travaille sur les fourmis? Encore une fois, pour ne pas céder à l'anthropomorphisme, pour essayer de comprendre votre travail, Luc Passera.
Alors, je crois qu'évidemment, on peut toujours faire des comparaisons, mais il ne faut pas perdre de vue que ce sont des analogies et non des homologies. C'est-à-dire que à un problème qui se pose, chaque espèce animale va répondre d'une façon indépendante, mais d'une façon convergente. Tous les animaux qui vivent dans l'eau, ou la plupart des animaux qui vivent dans l'eau, que ce soit des poissons, que ce soit des mammifères marins comme les baleines, que ce soit des oiseaux comme les manchots, ils ont tous pris une forme fusiforme pour mieux se déplacer dans l'eau.
Oui.
Et pourtant, il n'y a rien de commun, bien évidemment,
entre un manchot et une baleine.
Exactement. Mais il en est exactement de même entre les sociétés humaines et les sociétés de fourmis, tout à fait différentes.
En revanche, c'est très utile à certaines professions, par exemple les informaticiens, qui eux peuvent modéliser. Alors dites-nous en fait ce qui peut servir à l'informatique dans l'observation de la vie des fourmis.
Alors évidemment, les fourmis avec leur... leurs fonctions extrêmement précises, découpées, peuvent donner des idées, effectivement, à des informaticiens et à des roboticiens également. Et l'on commence à voir maintenant apparaître des robots très simples. Alors, au lieu de faire des robots très compliqués où les pannes sont évidemment multipliées, on a plutôt la tendance à fabriquer des robots très simples qui ne font qu'un geste, mais à multiplier le nombre de robots pour qu'il y ait des interactions entre eux, comme il y a des interactions entre fourmis dans un nid de fourmis.
Encore un mot sur notre rapport aux fourmis, sur notre éventuelle fascination pour ces différentes organisations. Attention à l'admiration béate, malgré tout. Attention à pousser trop loin cette comparaison entre les sociétés d'insectes et les sociétés d'hommes. Ça peut avoir des dérives, des conséquences absolument dramatiques. On l'a vu au XXe siècle, certains ont été trop aveuglés.
Oui, tout à fait. C'est une histoire plutôt triste, évidemment. En Allemagne, dans les années 30, il y avait un recteur de l'université de Munich qui était un spécialiste, non pas des fourmis, mais un termitologue. Et les termites vivent également dans des sociétés très comparables à celles des fourmis. Et ce termitologue était aussi un nazi convaincu. Et il trouvait dans le fonctionnement de la société de termites un dévouement absolu à une cause unique, à un chef déterminé. Et il voulait bien évidemment, il trouvait qu'il y avait donc matière à puiser chez les termites et à reproduire chez l'homme. On connaît bien sûr les dérives auquel cela n'a mené, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est que je crois que Escherich s'était trompé, parce que la reine de termites n'est pas un chef comme peut l'être un fureur, et donc il n'y avait absolument pas matière, il n'y a pas matière à copier l'organisation sociale des fourmis. Et puis surtout ce que je voudrais dire, c'est que ce qui sépare essentiellement des sociétés d'insectes, des sociétés de primates, c'est l'évolution culturelle. Alors, les fourmis ont une évolution biologique, c'est-à-dire que leurs comportements sont générés, par modelés par leur génome, par leurs chromosomes, même si on ne connaît pas, si on a quelques difficultés à isoler le chromosome responsable, ou les chromosomes, il n'y a jamais un chromosome responsable d'un comportement.
Ouais.
Mais on a quelques, on a beaucoup de difficultés, mais on commence à connaître, on a pu déterminer quelques chromosomes qui sont, quelques gènes plus exactement, qui sont responsables de tel ou tel comportement. Dans la société humaine, nous avons une évolution culturelle, c'est-à-dire une évolution qui est basée essentiellement sur l'imitation, l'apprentissage et la mémoire. Et ça, c'est tout à fait différent et ça permet donc de faire une différence énorme entre société d'insectes et société de vertébrés supérieurs et d'humains en particulier.
Et puis contrairement à l'enseignant que vous êtes, qui est attaché à la transmission, Luc Passera, elle n'enseigne rien aux jeunes.
Alors, dire qu'elle n'enseigne rien, c'est peut-être aller un peu vite. Il se peut que certains comportements soient imités, mais généralement, non. Généralement, tout est inscrit dans les gènes, tout est programmé, et lorsqu'une fourmi passe d'une tâche à l'autre, ou bien passe sa vie à accomplir la même tâche, c'est parce qu'elle a été programmée pour effectuer ce travail.
Vous allez nous raconter ça, Luc Passera, dans un instant. Place pour l'heure au tamanoir de 8h05. Pardon pour la comparaison, Alain Gérard, bonjour. Le titre de votre chronique ce matin, les deux tentations de la biologie.
Vous savez, ma vie n'est qu'un travail de fourmi, cher Ali, bien
c'est vrai.
Sûr. Alors, je voudrais, oui, ben, je rejoins le propos qui vient d'être tenu. Et les deux tentations dont je parle, ça fait partie de mon admiration pour le livre du professeur Passera, c'est qu'il s'en est bien gardé. Il y a eu d'autres. Un autre émerveillement dans ce livre, c'est d'imaginer l'entomologiste qui fabrique un petit chariot de la taille d'une fourmi pour observer les déplacements de l'animal. Ça, c'est prodigieux. Alors, non, je reviens à mes deux tentations. La première, d'inspiration spiritualiste, c'est l'anthropomorphisme. On explique le comportement animal par analogie avec celui des hommes. Une colonie de fourmis devient une société, et le comportement de l'insecte est décrit avec les termes qui caractérisent l'ordre humain. Je prends l'exemple de Bergson, bien connu. Grand lecteur de l'entomologiste Fabre, et qui décrit dans l'évolution créatrice l'opération par laquelle le sphex amophile pique une chenille aux endroits précis qui la paralysent au lieu de la tuer, afin de transformer cette chenille en un garde-manger vivant pour ses larves, c'est bien connu. Pour expliquer cette prodigieuse précision, Bergson définit cet instinct en recourant au terme de sympathie, et il s'appuie sur cette analogie pour étayer sa thèse vitaliste de l'intuition, état de conscience plus ou moins élaboré, plus ou moins révélé à lui-même, qui habite uniformément notre planète, voire l'univers. Et on connaît la conclusion qu'en tire Bergson, je cite, « Tous les vivants se tiennent, tous cèdent à la même formidable poussée, l'animal prend son point d'appui sur la plante, l'homme chevauche sur l'animalité, et l'humanité entière, dans l'espace et dans le temps, est une immense armée qui galope à côté de chacun de nous, en avant et en arrière de nous, dans une charge entraînante, capable de culbuter toutes les résistances et de franchir bien des obstacles, même peut-être la mort. » Alors quand j'ai cité ce texte, eh bien, on voit bien qu'il y a là une vision totalisante, et une vision totalisante de la création, et de l'homme une perception déterministe dans cette totalité organique où l'autonomie de l'individu disparaît. Et ainsi se comprend que la biologie ait eu autant de succès dans les mouvements du début du XXe siècle qui ont contesté la philosophie des Lumières, et ainsi s'explique aussi que tant biologistes aient été séduits par la vision du monde de la droite traditionnaliste, voire par le fascisme, et pas seulement en Allemagne. Nous avons eu en France le cas du fasciste, le pauvre, on l'a beaucoup calomnié, mais le cas d'Alexis Carrel. L'autre tentation, alors celle-là vous allez peut-être discuter davantage, elle est symétrique de celle que je viens de décrire. Elle est totalement matérialiste. Elle consiste non à lire le comportement animal à travers le comportement humain, mais au contraire à extrapoler de l'animal à l'homme et à considérer que ce dernier ne se distingue de l'animal, voire de la matière, que par un niveau supérieur d'organisation. Cette tentation a elle aussi pour conséquence de rompre avec la conception de l'individu autonome et responsable des Lumières de façon aussi fondamentale, puisqu'elle explique notre cerveau par la physique et la chimie, et nos comportements par la cybernétique. Et c'est à mon sens celle qui domine aujourd'hui. Qu'est-ce par exemple, vous allez bondir, mais je vous demande d'y réfléchir, que le raisonnement qui conduit à la parité homme-femme, ou à la thèse de la représentation proportionnelle des minorités dites visibles, sinon l'identification d'un statut juridique à une condition biologique. Et cette réduction de l'homme à la matière, je l'avoue, à sa matérialité, eh bien elle me fait peur.
C'était la chronique d'Alain Gérard Slama et notre invité ce matin est le professeur Luc Passera autour de sa véritable histoire des fourmis. Une réaction avant de retrouver les informations à ces deux tentations que décrivait Alain Gérard Slama, tentation du biologiste.
Ben, je crois qu'il faut se tenir éloigné des deux et qu'il faut rester penché sur, quand on est biologiste et myrmécologue, qu'il faut rester penché sur le terrain, observer les fourmis et essayer de faire abstraction de ce que vous venez de dire et sans se fier uniquement à ce que l'on voit, à ce que l'on perçoit, sans perdre de vue que c'est essentiellement l'adaptation qui a permis donc aux fourmis de parvenir à adopter tel ou tel comportement.
Et il faut dire que cette adaptation est proprement stupéfiante. On a une petite minute, mais pour nous décrire un mot, si elles sont en si grand nombre, si elles ont réussi à se maintenir au cours de ces millions d'années d'existence, les fourmis, c'est qu'elles ont vraiment su s'adapter à tous les milieux. On les trouve au pôle Nord, d'ailleurs on a découvert dans l'équipe qu'il y avait des fourmis en Sibérie, elles vivent par moins 20, moins 30 degrés.
Voilà, moins 40 degrés même, c'est pas tout à fait le pôle Nord, mais c'est au-delà du cercle polaire, et elles fabriquent tout simplement des antigels pour résister donc à des températures de moins 40 degrés.
Et d'autres vivent dans les conditions désertiques les plus extrêmes dans l'autre sens, alors là, dans la fournaise.
Voilà, donc là nous avons des fourmis du genre Cataglyphis qui vivent, qui supportent allègrement 50, 52, qui ne meurent qu'à 54 degrés, ce qui paraît-il un record absolu pour les espèces animales, et qui sortent même, paradoxe, qui sortent même aux heures les plus chaudes de la journée, là où elles risquent le plus de griller, parce que c'est à ce moment-là que leur prédateur, qui est un lézard, ne supporte pas, lui, et rentre dans son terrier.
Et d'autres utilisent la boussole astronomique, mais on l'a laissé le suspense, vous nous raconterez ça après les informations, Luc Passera. À tout de suite.
Action.
Il est 8h15 à Livadou.
Merci Hervé Gardet, on vous retrouve à 9h pour une nouvelle édition du journal. Et notre invité ce matin est le professeur Luc Passera autour de son livre La véritable histoire des fourmis. On le repasse de la Bastille, il est 8h21 sur France Culture. Notre invité ce matin est le professeur Luc Passera. Il est professeur émérite à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et il publie La véritable histoire des fourmis, j'y arrive, dans la collection Le Temps des Sciences chez Fayard. Luc Passera, une question. Vous parlez d'une réussite écologique extraordinaire pour les fourmis. L'écologie, c'est un thème dont on parle beaucoup aujourd'hui dans de tout autres contextes. Il en est plutôt question sur la scène politique, dans le débat public. Expliquez-nous ce que les fourmis ont réussi qui nous serait à nous inaccessible.
Oh, ce qu'elles ont réussi... Inaccessible à nous.
Ou difficile en tout cas.
Difficile. Bon, c'est s'adapter à des conditions de vie particulièrement difficiles. Je sais bien qu'il y a des explorateurs qui vont vers le pôle Nord. On peut également très bien survivre dans l'Afrique tropicale, mais peut-être pas aussi bien que le font les fourmis. Par exemple, dans les milieux tropicaux, les fourmis pullulent à raison, par exemple, d'à peu près 50 millions d'individus par hectare, ce qui est quand même un chiffre remarquable. Plus on va d'ailleurs vers les régions équatoriales, et plus on rencontre de fourmis. Sur un seul arbre de la forêt amazonienne au Pérou, on trouve 43 espèces de fourmis, ce qui est supérieur au nombre d'espèces de fourmis que l'on trouve dans toutes les îles britanniques. Donc les fourmis savent s'adapter, mieux que nous sans doute, à des conditions extrêmes.
Alors cette faculté d'adaptation extraordinaire fait qu'elles utilisent ce que vous appelez une boussole astronomique, qu'elles utilisent un podomètre pour évaluer les distances.
Voilà, là ce sont des fourmis qui vivent dans des zones désertiques, en plein Sahara, sous des températures donc qui peuvent atteindre 55 degrés, et elles sont, évidemment il n'y a pas un seul repère topographique visible, et pour retrouver le nid lorsqu'elles sont allées chercher de la nourriture qui est des cadavres d'insectes qui sont morts de sécheresse tout simplement, eh bien elles vont utiliser une boussole astronomique, c'est-à-dire qu'elles vont décrire un cap par rapport au soleil, et elles sont même capables, pendant le chemin aller, c'est-à-dire lorsqu'elles s'éloignent de leur nid, elles sont capables d'intégrer le déplacement apparent du soleil dans le ciel, et donc quand elles reviennent, elles tiennent compte de cette déviation.
Si on fait un peu de géopolitique des fourmis, toujours pour suivre ce penchant anthropomorphiste ou anthropomorphique qui est le mien depuis ce matin, en écoutant Alexandre Adler, il parlait de la guerre froide, de l'équilibre, de la terreur. Elles, les fourmis, elles ajustent le format de leur armée au degré de menace que représente l'adversaire. Elles n'ont pas de scrupule à employer des armes chimiques, Luc Passera.
Alors effectivement, la guerre fait partie du monde des fourmis, parce que les fourmis sont extrêmement territoriales, la plupart d'entre elles en tout cas, sont très territoriales et défendent donc leur pré carré.
Avec pacem parabellum, c'est la devise des fourmis.
Ça pourrait être la devise des fourmis, et elles entretiennent, au moins certaines espèces, une armée, une véritable armée, c'est-à-dire des fourmis qui ont une morphologie particulière adaptée à la guerre, c'est-à-dire des mandibules surdimensionnées qui peuvent donc couper facilement l'ennemi. Mais ces soldats ne savent faire que la guerre, en quelque sorte, et sont donc coûteux à entretenir quand il n'y a pas de guerre. Il faut donc ajuster leur nombre à la menace éventuelle que peut subir la société. Eh bien, certaines fourmis, et ce sont des fourmis même françaises, que l'on trouve donc dans le midi de la France, savent parfaitement estimer le degré de dangerosité d'un biotope déterminé par les rencontres qu'elles peuvent faire, et si elles rencontrent beaucoup d'animaux qui peuvent leur causer des soucis, elles augmentent le nombre de leurs soldats.
Et elles peuvent envoyer, par exemple, au front des individus âgés de vie inutile.
Effectivement, les soldats, ou les individus en tout cas, qui sont chargés de la défense de la société, sont généralement les individus les plus âgés. Ce sont donc des individus qui ont déjà rendu à la société tout ce qu'elles en avaient reçu, qui ont donc travaillé déjà toute leur vie pour leur société, et donc la disparition de ces animaux est sans aucune espèce d'importance pour la société. On retrouve ça dans les fourmis, par exemple, champignonistes, qui ont des dépôts d'ordures impressionnants, il y a des centaines de kilos d'ordures dans ces nids, manœuvrés dans des dépôts d'ordures, c'est très dangereux, il y a des bactéries partout, il y a des microbes partout. Eh bien, les fourmis que l'on envoie faire ce travail d'éboueur, ce sont des fourmis les plus âgées, donc elles vont mourir, c'est sûr, mais c'est pas grave, ce sont les fourmis les plus âgées, et elles ne sortiront jamais du dépotoir, de façon à ne pas contaminer le reste de la société.
Et dans ce monde cruel, même si nos auditeurs ne doivent pas y voir une connotation morale, il y a des fourmis kamikazes qui ont un rôle très spécifique, Luc Passera.
Alors il y a également des fourmis kamikazes, on reste toujours dans le compartiment guerrier, si vous voulez. Ce sont des fourmis
dans la géopolitique des fourmis.
Voilà. Ce sont des fourmis qui ont des glandes surdimensionnées, des glandes céphaliques logées dans la tête, mais tellement longues qu'elles vont jusque dans l'abdomen. Et ces fourmis, lorsqu'elles sont au contact d'un intrus, contractent leur abdomen et explosent leur abdomen en projetant sur l'ennemi un liquide qui est évidemment toxique. Donc elles meurent, c'est sûr, mais l'ennemi également va périr.
Alors on a parlé de la guerre, parlons un peu d'amour. Elles ont des mœurs très étonnantes, vos fourmis, Luc Passera, puisque certaines vivent en harem, d'autres pratiquent l'homosexualité, d'autres encore des formes très curieuses de rapports entre les sexes.
Oui, l'amour chez les fourmis, c'est peut-être pas quelque chose qui est à copier, hein, parce que en particulier pour
on ne sait jamais, Luc Passera, chacun ses goûts.
Surtout pas pour le sexe masculin, puisque les mâles de fourmis en sont réduits à être de simples transporteurs, de simples véhicules de spermatozoïdes, et ils ne vivent que quelques jours, le temps donc de transmettre leurs spermatozoïdes. Ils sont ensuite tués par la femelle qui vient de féconder, et s'ils en réchappent, de toute façon ils sont incapables de se nourrir tout seuls, et ils vont mourir misérablement en quelques heures ou en quelques jours.
Et ce harem dont je parlais, que vous évoquez dans votre livre, comment fonctionne-t-il?
Alors certains mâles, effectivement, il faut dire que les mâles de fourmis encore quelque chose qu'il ne faut surtout pas copier. Les mâles de fourmis ont des testicules qui fonctionnent uniquement pendant la vie nymphale, qui dégénèrent lors de la vie adulte, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas refaire leur provision de spermatozoïdes, ce qui veut dire qu'ils n'ont droit qu'à, généralement, qu'à un seul accouplement. Sauf dans quelques cas spéciaux, et c'est à cela que vous faites une allusion, où les mâles ne quittent pas le nid, restent dans le nid, et à ce moment-là, ils vont pouvoir féconder, ils sont en mesure de féconder plusieurs reines, donc on peut dire qu'ils ont un véritable harem à leur disposition.
Luc Passera, vous allez nous raconter ce qui se passe dans cette expérience assez commune que chacun a pu faire sur une aire d'autoroute ou à la campagne lorsqu'on fait tomber des miettes de son repas et que des fourmis accourent. Il se passe énormément de choses à ce moment-là, on va en parler dans un instant. Retour dans la mail, il est 8h33 sur France Culture, dernière partie des matins en compagnie de notre invité, le professeur Luc Passera, et de son livre « La véritable histoire des fourmis », un livre qui paraît dans la collection « Le temps des sciences » chez Fayard. Autour de la table pour vous interroger, Olivier Duhamel et Marc Kravets. On y trouve des histoires de fourmis, Luc Passera, mais aussi, je l'indique, des illustrations, des photos. On y apprend plein de choses. Un mot peut-être, hier on recevait un député de sa très glorieuse majesté, la reine d'Angleterre, et on parlait de Buckingham Palace, on parlait de ce film The Queen de Stephen Frears, un film, où on apprend des tas de choses sur les rapports de pouvoir, et notamment sur le drapeau qui flotte sur Buckingham Palace. Et vous dites que quand on arrive devant une fourmilière, bah, les fourmis ont à peu près la même expérience que le londonien qui visite le palais de la reine.
Alors tout à fait, effectivement, bon, tout le monde sait que lorsque la reine est à Buckingham Palace, le drapeau est hissé, il y a donc un signal visible, c'est un signal visuel. Les fourmis pratiquent surtout une communication chimique, ce qui veut dire que lorsque la reine est dans le nid, et une reine en bonne santé, c'est-à-dire une reine pondeuse, qui a donc une nombreuse descendance, cette reine va émettre un signal de fertilité, un signal chimique, qui sera perçu par les ouvrières, qui sera également perçu par d'autres individus qui éventuellement voudraient prendre la place de la reine, et qui, tant que cette reine émet le signal de fertilité, reste tranquillement à leur place.
Et chaque individu modifie son comportement donc en fonction de cette information chimique.
Exactement, exactement. Et si un individu, assez souvent, dans certaines sociétés, les individus sont hiérarchisés. Il y a donc l'individu alpha qui sera l'individu pondeur, et puis dessous un individu bêta. Si l'individu bêta lui prend fantaisie de devenir alpha, donc d'aller combattre la reine, l'individu en tout cas reproducteur, cet individu reproducteur va saisir l'antenne de son challenger, va la frotter sur des glandes qu'il possède sur son abdomen, et le signal de fertilité sera ainsi transmis, et donc l'individu bêta est informé de la présence d'un individu reproducteur.
Il peut y avoir une aspiration révolutionnaire donc chez les fourmis.
Il peut y avoir, il y a très souvent effectivement des remises en cause de la hiérarchie.
Mais est-ce qu'elles ont leur Spartacus? Parce qu'en l'occurrence, certaines pratiquent l'esclavage.
Alors, certaines pratiquent l'esclavage. Ce sont des fourmis qui sont incapables d'élever leurs propres larves. Elles ne savent pas, elles ont perdu au cours de l'évolution la possibilité d'élever leurs larves. Donc ces fourmis qui, en contrepartie, ont des armes redoutables, c'est-à-dire des mandibules très pointues, ces fourmis font des raids de pillage en direction d'espèces voisines, s'introduisent par la force des armes, donc par le combat, dans ces sociétés, émettent des substances chimiques qui vont paniquer les fourmis visées, et elles repartent de ce nid pillé en emportant des cocons qui vont éclore dans leur nid. De ces cocons sortent des ouvrières étrangères. Ces ouvrières étrangères sont utilisées pour toutes les tâches domestiques, c'est-à-dire élever les larves, récolter la nourriture.
Olivier Duhamel.
Oui, pardonnez-moi de t'interrompre ce dialogue passionnant, mais peut-être que je finis par en raconter trop de votre livre et de profiter de votre présence pour essayer d'en savoir un peu plus, non pas sur les fourmis, mais ou pas seulement sur les fourmis, mais sur vous. au terme de votre vie scientifique, dans ce travail, quelle est, à vos yeux, la principale contribution que vous avez apportée à cette branche de la science qui est la connaissance des fourmis?
La myrmécologie, comme on l'a appris.
Voilà, quelle est votre principale contribution de
45 ans de travaux.
Ma principale contribution, je pense, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé ici, qui est l'établissement du sexe ratio chez les fourmis. Le sexe ratio, c'est tout simplement le rapport des sexes, du nombre de mâles par rapport au nombre de femelles. Il nous paraît tout à fait normal chez nous qu'il y ait à peu près autant d'hommes que de femmes. À la naissance, il y a un petit peu plus de filles que de garçons, mais ça se rétablit très vite, les garçons étant, quand ils sont jeunes, un peu trop
agités,
les accidents de la route, etc. À l'âge de la reproduction, on se retrouve à peu près à égalité. Chez les fourmis, c'est tout à fait différent, pour des raisons génétiques, qui sont assez complexes, que je ne peux peut-être pas développer ici, et il est très intéressant d'étudier donc effectivement le rapport du nombre de mâles par rapport au nombre de femelles, ou le nombre de femelles par rapport au nombre de mâles. Je crois que...
Mais c'est à peu près de quel ordre alors?
Alors ça peut varier. Généralement, il doit y avoir trois fois plus de femelles que de mâles, ou en tout cas, les fourmilières doivent investir trois fois plus dans l'élevage des femelles de leurs filles, donc, que dans l'élevage de leurs fils, tout simplement parce que entre le nombre de gènes communs que possèdent les mères et les fils n'est que de un quart, alors que il est de trois quarts, par exemple, entre des sœurs. Alors chez nous, on est toujours à moitié-moitié. Quand on passe nos gènes à la génération suivante, on passe 50% de nos gènes à nos fils, 50% de nos gènes à nos filles. Donc, on n'a aucune raison de favoriser un sexe par rapport à un autre. Chez les fourmis, c'est différent.
Je apparaît vraiment comme totalement ignare que je suis en la matière, mais peut-être en plus imbécile. Mais il faut trois fois plus de filles. Et pourtant, les garçons tirent qu'un seul coup dans leur vie. Alors, comment ça marche pour...
Expliquez-nous ce paradoxe.
Alors, en fait, j'ai pris le soin de vous dire qu'elles investissaient trois fois plus dans l'élevage des filles que des garçons, ou des femelles que des mâles. Mais il faut tenir compte du rapport des poids. Les mâles sont très petits et les femelles sont très grosses. Donc, on peut très bien avoir 10 mâles pour une femelle, mais ces 10 mâles en masse, en poids, ne représentent que le tiers des femelles. Donc effectivement, il y a suffisamment de mâles pour féconder toutes les femelles de la société, et même beaucoup de mâles resteront sur leur faim.
Toujours pour parler nombre et grand nombre, en moyenne, il y a combien d'individus dans une fourmilière?
Alors, c'est extrêmement variable, puisque on connaît certaines fourmilières où on compte les fourmis sur les doigts d'une main, c'est-à-dire il y a en moyenne 3 individus, et puis les fourmis magnans d'Afrique, il peut y avoir 20 millions d'individus dans une fourmilière.
Donc un peu, oui, là-haut. Bon.
Mais il faut dire qu'il y a 12 000 espèces de fourmis de par le monde, donc tout est possible.
Extraordinaire variété. Marc Travers.
Évidemment, professeur Passage, j'ai envie de vous poser la question à l'inverse de celle de Lillier. C'est comment c'est quand tous les enfants du monde, je suppose, ont à un moment donné été passionnés par les fourmis, on jouait avec des fourmilières, on leur ont tracé des chemins.
Les ont écrasés aussi, malheureusement.
Bon, je préfère leur passer des chemins, leur donner des miettes, mais ou du sucre. Mais enfin, bon, peu importe, hein, chacun ses mœurs. Comment on passe de cela à une vocation scientifique de cette intensité?
Je l'ai dit un petit peu déjà tout à l'heure, c'est bon, le hasard joue évidemment toujours une part très très importante.
Vous n'avez pas dit toute la vérité peut-être tout à l'heure pour répondre à Marc Ravetz, il y a aussi la méchanceté du bélier en l'occurrence.
Oui, bon. Oui. Donc lorsque j'étais adolescent, j'ai travaillé pendant les mois d'été, dans une ferme, et j'avais pour mission de suivre mon troupeau de brebis, où il y avait évidemment un mâle. Et je ne sais pas pourquoi ce mâle supportait mal ma présence. Il m'a donné donc quelques coups de tête, et je vous assure que ça fait vraiment très mal, un coup de tête de bélier, dont j'ai dû m'armer d'un bâton pour me défendre. Et avec ce bâton, comme je ne savais pas trop que faire, en suivant les fourmis, en suivant les moutons, mes brebis, eh bien je soulevais des cailloux, et j'ai trouvé donc comme cela un autre monde beaucoup plus petit, mais qui était aussi un monde social, comme le monde des moutons et des brebis forment des sociétés également, dont j'aurais très bien pu être intéressé par des sociétés de vertébrés, et en fait j'ai été intéressé par des sociétés de fourmis, et il se trouve qu'à l'université de Toulouse où j'ai fait mes études, il y avait un laboratoire qui était spécialisé dans l'étude des fourmis.
Et pourtant vous êtes très peu nombreux, cette communauté scientifique, je vais vous donner la parole Marc Travet dans une seconde, cette communauté scientifique elle est relativement restreinte quand on considère la masse des individus à étudier en l'occurrence.
Oui, en France, il y a 4 à 5 laboratoires, finalement, qui s'intéressent donc à la biologie ou au comportement des fourmis. Donc, ça doit représenter une trentaine d'individus, peut-être, trentaine de chercheurs, à l'université ou au CNRS. Et dans le monde entier, on est 300, 400, 500, pas plus. Mais ça a un gros avantage, c'est que l'on se connaît à peu près tous, et que les réunions que l'on tient pour les Français ou pour les francophones tous les ans, pour les autres c'est tous les 4 ans, eh bien on se connaît tous et donc on peut se parler et donc on peut faire progresser nos connaissances.
Même à travers le débat, puisqu'il paraît qu'on peut violemment s'opposer
à propos
des fourmis.
Bien sûr, on s'oppose à propos des fourmis comme on s'oppose à propos de tout.
Marc Travet.
Non, ce qui est fascinant aussi, c'est vu tout ce que vous nous racontez sur l'ampleur, non seulement des individus, mais des collectivités, des espèces, c'est la conduite de l'observation qui est assez fascinante. Comment ça se passe?
Mais l'observation se passe généralement en 2 temps. Elle se passe d'abord sur le terrain. Ça, c'est le travail des éthologistes, c'est d'observer le comportement d'un animal sur le terrain. Et c'est vrai que les fourmis, de ce point de vue, présentent certains avantages parce que une société de fourmis, c'est quand même, généralement, c'est assez petit, donc on n'a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres comme on le ferait pour suivre une société de lions ou une société d'éléphants. Et puis, ces fourmis, on les récolte, on les ramène au laboratoire, et là, on les élève dans des dispositifs relativement simples, dans des boîtes, finalement, et on peut les observer à la loupe binoculaire. Et là, comme c'est assez petit, eh bien, avec la loupe binoculaire, on peut avoir dans le champ de la loupe binoculaire, on peut avoir quasiment toute la société. Donc, on peut suivre les fourmis individuellement, après les avoir marquées, bien sûr, pour les reconnaître. On leur met soit des petites taches de peinture sur le dos, donc on joue avec des couleurs, avec l'emplacement des taches de couleurs. On peut leur mettre des petits bracelets métalliques autour de pétiole. C'est un travail minutieux, mais qui n'est pas impossible.
On peut mettre un bracelet métallique autour d'une fourmi?
Oui, autour du pétiole, on fait un bracelet. Alors, on peut choisir la couleur du bracelet. On peut faire un certain nombre de nœuds, un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Et donc, tout ça, ça fait des combinaisons multiples. Donc, chaque individu est individualisé et suivi d'une façon indépendante. Et là, je voudrais peut-être rebondir et dire, justement, une des grosses différences entre les sociétés de primates et les sociétés humaines et les sociétés de fourmis, c'est que les fourmis, avec leur petit cerveau de 100 000 neurones, ne sont pas capables de se reconnaître individuellement. Alors que un primate, avec ses 100 milliards, en tout cas l'homme, ses 100 milliards de neurones, est capable, bien évidemment, de se reconnaître dans une glace individuellement et de reconnaître individuellement un très grand nombre d'individus. Les fourmis ne le peuvent pas, elles peuvent simplement reconnaître des sous-groupes dans leur fourmilière à l'odeur.
Et j'indique d'ailleurs, pour ceux qui voudraient partager cette passion, qu'il existe un site internet fourmis.org où l'on apprend à construire sa fourmilière et à élever des fourmis. Olivier Duhamel.
Vous avez dit tout à l'heure en répondant à Marc Kravets que dans vos réunions quadriennales entre
myrmécologues.
Voilà, myrmécologues du monde entier, vous aviez des affrontements, des oppositions, des vastes controverses. Est-ce que vous pouvez évoquer pour nous quelques-unes ou une ou deux de ces controverses sur lesquelles les myrmécologues peuvent se confronter?
Luc Passera.
Ben justement, sur l'établissement du sexe ratio, tout le monde n'aboutit pas aux mêmes conclusions en fonction du matériel que l'on étudie. Généralement, si vous voulez, ce ne sont pas de véritables controverses peut-être, c'est que chacun étudie un matériel particulier et puis, il y a 12 000 espèces de fourmis, chacune a ses caractéristiques propres et donc on peut s'interroger sur la façon dont les gens ont travaillé, sur la méthodologie qui a été suivie, et ça peut donc conduire effectivement à certaines contestations.
Ça, c'est des petits trucs, mais il n'y a pas eu de... Alors, peut-être pas maintenant, mais il y a...
Théologie homérique.
Sur la part de l'expérience, sur
bon,
je sais pas quoi.
Alors là, bon, je vois où vous voulez en venir. Bon, vous voulez me faire parler de l'évolution, finalement. Est-ce que les fourmis sont le fruit de l'évolution? Mais moi, je dis oui, c'est le fruit de l'évolution. Et si c'est le fruit de l'évolution, c'est que les comportements ont une base génétique. Et ça, évidemment, ça fait grincer les dents à beaucoup de monde.
Pourquoi? Quelle est la thèse adverse?
Ben, la thèse adverse, c'est la thèse que nous ne sommes pas le fruit de nos gènes, mais nous sommes le fruit de notre expérience, c'est-à-dire de notre vécu, de notre apprentissage, de notre environnement social. Ce qui est tout à fait vrai, essentiellement pour l'homme et pour les primates. Mais pour des animaux beaucoup plus simples, comme le sont les fourmis, ce qui compte avant tout, effectivement, ce sont les gènes, et les fourmis agissent dans un cadre très strict qui est dicté par les possibilités génétiques.
Une forme de programmation.
Elles sont programmées, effectivement, et on commence même à individualiser les gènes qui sont responsables de tel ou tel comportement. Il existe une fourmi américaine, la fourmi de feu, qui existe sous deux formes. Certaines sociétés ne possèdent qu'une reine, elles sont dites monogynes, d'autres possèdent plusieurs reines, elles sont polygynes. C'est la même espèce. Et le fait d'avoir une reine ou plusieurs reines, ça génère des comportements de reproduction totalement opposés. Eh bien, on sait maintenant que la monogynie ou la polygynie tient à le fait que un gène peut être homozygote ou peut être hétérozygote. S'il est homozygote, la reine va pouvoir se nourrir abondamment, dont va pouvoir fonder toute seule sa société, elle fondera une société monogyne.
Et pour les jeunes chercheurs, ceux qui vous succèdent, qui reprennent votre passion, Luc Passera, qu'est-ce qu'il leur reste à découvrir? Qu'est-ce qui reste comme univers à explorer dans le monde des fourmis?
Ben, je vous ai dit qu'il y avait, actuellement, il y a 12 000 espèces de fourmis connues, il y en a certainement au moins 10 fois plus encore à trouver. Donc, ils trouveront certainement des choses extravagantes sur des fourmis que l'on ne connaît pas encore. Dernièrement, on a découvert des fourmis qui étaient capables de s'orienter, je dirais presque en volant, alors qu'elles n'ont pas d'ailes.
Comment
pas
ça d'ailes.
Ce sont des fourmis qui vivent dans la canopée des régions
dans les arbres.
Dans les arbres, des régions tropicales, qui sont pourchassées par les oiseaux, et une des meilleures façons d'échapper à l'oiseau, c'est de se laisser tomber. Et quand on se laisse tomber d'un arbre qui mesure 50 ou 60 mètres de haut, c'est pas le choc qui est dangereux, aucun danger pour ça, mais c'est de retrouver ensuite le tronc dans lequel, en haut duquel se trouve son nid. Donc il faut vraiment tomber, sur le tronc et non pas sur la meulière. Eh bien, ces fourmis, lorsqu'elles tombent, arrivent à orienter leur corps de telle sorte qu'elles vont atterrir sur le tronc de l'arbre et non pas sur la litière de la forêt. Donc ce sont des fourmis qui ont, c'est les premiers animaux qui, sans ailes, arrivent à s'orienter au cours de ce qu'on peut appeler un vol. Voilà quelque chose qui est nouveau et on en trouvera d'autres.
C'est stupéfiant. Comment est-ce qu'une fourmi ne peut rien risquer en tombant de 50 ou 60 mètres de haut?
Ben parce qu'elle a une carapace. D'abord, elle pèse très peu, ça ne pèse que 1 à 2 mg, 10 mg pour les plus grosses. Elles ont une cuticule qui est très épaisse, qui protège parfaitement, et donc il n'y a aucun danger de s'écraser au sol lorsqu'on est une fourmi.
Marc Cravette.
C'est une chute assez vertigineuse que vous venez de décrire. Non, je suis très frappé par votre démonstration, enfin, votre exposé plus exactement sur l'aspect génétique et le fait qu'elle soit le fruit d'évolution. Mais est-ce que ça veut dire que de nouvelles espèces naissent par mutation génétique, par et donc qu'il pourrait naître de nouvelles espèces de fourmis qu'on...
Alors, comme dans tous les phénomènes d'évolution, l'évolution procède un petit peu par bond. Donc, voir naître de nouvelles espèces actuellement, je ne pense pas qu'on ait pu le démontrer. Pratiquement tous les genres de fourmis étaient présents au Crétacé. C'est-à-dire à une époque donc qui remonte maintenant
100 millions d'années. Comment on le sait? Comment on peut le savoir?
Parce qu'on a des fossiles en nombre conséquent. D'ailleurs, la fourmi la plus ancienne que l'on connaisse est d'origine française, si j'ose dire, puisqu'on l'a trouvée dans de l'ambre fossile des Charentes-Maritimes.
Voilà qui dit Olivier Diomel, un mot peut-être?
Non.
Un mot peut-être juste pour donner envie de lire le livre, puisque malheureusement notre entretien touche à la
conversation, n'a pas donné envie de lire.
Alors là, c'est de tout, mais ce ne sera pas le cas. Je suis sûr qu'on va se précipiter sur votre livre. C'est un bonheur. Vous continuez à travailler?
Un petit peu.
Vous adorez ça.
Bien sûr.
Bah, merci en tout cas à Luc Passera d'avoir fait le voyage depuis Toulouse et de nous avoir fait partager cette passion pour les fourmis, la véritable histoire des fourmis. Je rappelle que c'est publié chez Fayard dans cette collection Le Temps des Sciences. Bon voyage, bon retour et merci infiniment en tout cas de nous avoir rendu visite.